l'envers de l'histoire contemporaine, troisième partie. Quand mon genou s'assied, reprit le bonhomme Alain, je m'aperçois que ces souliers sont horriblement usés. Ces bas mouchetés avaient été si souvent blanchis que j'eus de la peine à reconnaître qu'ils étaient en soie. Sa culotte en casimir de couleur abricot, sans aucune fraîcheur, annonçait un long usage, encore attesté par des changements de couleur à des places dangereuses. Et les boucles, au lieu d'être en acier, me parurent être en fer commun. Celles des souliers étaient de même métal. Son gilet blanc à fleurs, devenu jaune à force d'être porté, comme sa chemise dont le jabot dormant était fripé, trahissait une horrible mais décente misère. Enfin, l'aspect de la houppelande, on nommait ainsi une redingote ornée d'un seul collet en façon de manteau à la Crispin, acheva de me convaincre que mon ami était tombé dans le malheur. Cette houppelande, en drap couleur noisette, excessivement râpée, admirablement bien brossée, avait un col gras de pommade ou de poudre et des boutons en métal blanc devenus rouges. Enfin, toute cette friperie était si honteuse que je n'osais plus y jeter les yeux. Le claque, une espèce de demi-cercle en feutre qu'on gardait alors sous le bras au lieu de le mettre sur la tête, avait dû voir plusieurs gouvernements. Néanmoins, mon ami venait sans doute de dépenser quelques sous pour sa coiffure chez un barbier, car il était rasé. Ses cheveux, ramassés par derrière, attachés par un peigne et poudrés avec luxe, sentaient la pommade. Je vis bien deux chaînes parallèles sur le devant de sa culotte, deux chaînes en acier terni, mais aucune apparence de montre dans les goussets. Nous étions en hiver, et mon genou n'avait point de manteau, car quelques larges gouttes de neige fondues et tombées des toits, le long desquels il avait dû marcher, jaspaient le collet de sa houppelande. Lorsqu'il ôta de ses mains ses gants en poils de lapin et que je vis sa main droite, j'y reconnus les traces d'un travail quelconque, mais d'un travail pénible. Or, son père, avocat au grand conseil, lui avait laissé quelque fortune, 5 à 6 000 livres de rente. Je compris aussitôt que mon genou venait me faire un emprunt. J'avais dans une cachette 200 louis en or, une somme énorme pour ce temps-là, car elle valait je ne sais plus combien de 100 000 francs en assignats. Mon genou et moi, nous avions étudié dans le même collège, celui des Grassins, et nous nous étions retrouvés chez le même procureur, un honnête homme, le bonhomme Bordin. Quand on a passé sa jeunesse et fait les folies de son adolescence avec un camarade, il existe entre nous et lui des sympathies presque sacrées. Sa voix, ses regards, nous remuent au cœur de certaines cordes qui ne vibrent que sous l'effort des souvenirs qu'il ranime. Quand bien même on a eu des motifs de plainte contre un tel camarade, tous les droits de l'amitié ne sont pas prescrits. Mais il n'y avait pas eu la moindre brouille entre nous. À la mort de son père, en 1787, mon genou s'était trouvé plus riche que moi. Quoique je ne lui eusse jamais rien emprunté, parfois je lui avais dû de ses plaisirs que la rigueur paternelle m'interdisait. Sans mon généreux camarade, je n'aurais pas vu la première représentation du mariage de Figaro. Mon genou fut alors ce qu'on appelait un charmant cavalier. Il avait des galanteries. Je lui reprochais sa facilité à se lier et sa trop grande obligeance. Sa bourse s'ouvrait facilement. Il vivait à la grande. Il vous aurait servi de témoin après vous avoir vu deux fois. Mon Dieu, vous me remettez là dans les sentiers de ma jeunesse, s'écria le bonhomme Alain en jetant à Godefroy un gai sourire et faisant une pause. M'en voulez-vous ? Dit Godefroy. « Oh non! Et à la minutie de mon récit, vous voyez combien cet événement tient de place dans ma vie. »« J'écoute, » dit Godefroy. Mon genou, doué d'un cœur excellent et homme de courage, un peu voltairien, fut disposé à faire le gentilhomme, reprit M. Alain. Son éducation au Grassin, où se trouvaient des nobles, et ses relations galantes, lui avaient donné les mœurs polies des gens de condition, que l'on appelait alors aristocrates. Vous pouvez maintenant imaginer combien fut grande ma surprise en apercevant chez mon genou les symptômes de misère qui dégradaient pour moi le jeune, l'élégant mon genou de 1787, quand mes yeux quittèrent son visage pour examiner ses vêtements. Néanmoins, comme à cette époque de misère publique, quelques gens rusés prenaient des dehors misérables, et comme il y avait pour d'autres des raisons suffisantes de se déguiser, j'attendis une explication, mais en la sollicitant. « Dans quel équipage te voilà, mon cher Mongenot ? » lui dis-je en acceptant une prise de tabac qu'il m'offrit dans une tabatière de 6 000 or. « Bien triste, répondit-il, il ne me reste qu'un ami, et cet ami, c'est toi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter d'en arriver là, mais je viens te demander 100 louis. La somme est forte, dit-il en me voyant étonné. Mais si tu ne m'en donnais que 50, je serais hors d'état de te les rendre jamais. Tandis que si j'échoue dans ce que j'entreprends, il me restera 50 louis pour tenter fortune en d'autres voies. Et je ne sais pas encore ce que le désespoir m'inspirera. Tu n'as rien ? Fis-je. J'ai, reprit-il en réprimant une larme, 5 sous de reste sur ma dernière pièce de monnaie. Pour me présenter chez toi, j'ai fait cirer mes souliers et je suis entré chez un coiffeur. J'ai ce que je porte. Mais, reprit-il en faisant un geste, je dois 1000 écus en assignat à mon hôtesse, et notre gargotier m'a refusé crédit hier. Je suis donc sans aucune ressource. « Et que comptes-tu faire ? » dis-je en m'immisçant déjà dans son fort intérieur. « M'engager comme soldat, si tu me refuses. »« Toi, soldat ! Toi, mon genou ! » !»« Je me ferai tuer, ou je deviendrai le général mon genou. » « Eh bien, lui dis-je tout ému, déjeune en toute tranquillité. « J'ai 100 louis. »« Là, » dit le bonhomme en regardant Godefroy d'un air fin, « je crus nécessaire de faire un petit mensonge de prêteur. »« C'est tout ce que je possède au monde, » dis-je à mon genou. « J'attendais le moment où les fonds publics arriveraient au plus bas prix possible pour placer cet argent. Mais je le mettrai dans tes mains, et tu me considéreras comme ton associé, laissant à ta conscience le soin de me rendre le tout en temps et lieu. « La conscience d'un honnête homme, lui dis-je, est le meilleur grand livre. » Mon genou me regardait fixement en m'écoutant et paraissait s'incruster mes paroles au cœur. Il avança sa main droite, j'y mis ma main gauche et nous nous serrâmes nos mains, moi très attendri, lui sans retenir cette fois 2 grosses larmes qui coulèrent sur ses joues déjà flétries. La vue de ces 2 larmes me navra le cœur. Je fus encore plus touché quand, oubliant tout dans ce moment, mon genou tira pour s'essuyer un mauvais mouchoir des Indes tout déchiré. « Reste là, lui dis-je en me sauvant, pour aller à ma cachette, le cœur ému, comme si j'avais entendu une femme m'avouant qu'elle m'aimait. Je revins avec 2 rouleaux de chacun 50 louis. « Tiens, compte-les. » Il ne voulut pas les compter, et regarda tout autour de lui pour trouver une écritoire, afin de me faire, dit-il, une reconnaissance. Je me refusais nettement à prendre aucun papier. « Si je mourais, lui dis-je, mes héritiers te tourmenteraient. Ceci doit rester entre nous. » En me trouvant si bon ami, mon genou quitta le masque chagrin et crispé par l'inquiétude qu'il avait en entrant. Il devint gai. Ma femme de ménage nous servit des huîtres, du vin blanc, une omelette, des rognons à la brochette, un reste de pâté de Chartres que ma vieille mère m'avait envoyé, puis un petit dessert, le café, les liqueurs des îles. Mon genou, à jeun depuis 2 jours, se restaura. En parlant de notre vie avant la Révolution, Nous restâmes attablés jusqu'à 3 heures après-midi, comme les meilleurs amis du monde. Mon jeune homme me raconta comment il avait perdu sa fortune. D'abord, la réduction des rentes sur l'hôtel de ville lui avait enlevé les 2/3 de ses revenus, car son père avait placé sur la ville la plus forte partie de ses capitaux. Puis, après avoir vendu sa maison rue de Savoie, il avait été forcé d'en recevoir le prix en assignat. Il s'était alors mis en tête de faire un journal, La Sentinelle, qu'il avait obligé de fuir après 6 mois d'existence. En ce moment, il fondait tout son espoir sur la réussite d'un opéra comique intitulé Les Péruviens. Cette dernière confidence me fit trembler. Mon genou, devenu acteur, ayant mangé son argent dans La Sentinelle et vivant sans doute au théâtre, en relation avec les chanteurs de Phédo, avec des musiciens et le monde bizarre qui se cache derrière le rideau de la scène, ne me sembla plus moi-même, mon genou. J'eus un léger frisson. Mais le moyen de reprendre mes 100 louis. Je voyais chaque rouleau dans chaque poche de la culotte comme 2 canons de pistolet. Mon genou partit. Quand je me trouvai seul, sans le spectacle de cette âpre et cruelle misère, je me mis à réfléchir malgré moi. Je me dégrisais. « Mon genou, pensais-je, s'est sans doute dépravé profondément. Il m'a joué quelques scènes de comédie. » Sa gaieté, quand il m'avait vu lui donnant débonnairement une somme si énorme, me parut alors être la joie des valets de théâtre attrapant quelques gérontes. Je finis par où j'aurais dû commencer. Je me promis de prendre quelques renseignements sur mon ami Mongenot, qui m'avait écrit son adresse au dos d'une carte à jouer. Je ne voulus point l'aller voir le lendemain par une espèce de délicatesse. Il aurait pu voir de la défiance dans ma promptitude. 2 jours après, quelques préoccupations me prirent tout entier, et ce ne fut qu'au bout de 15 jours que, ne voyant plus mon genou, je vins un matin de la Croix-Rouge, où je demeurais alors, rue des Moineaux, où il demeurait. Mon genou logeait dans une maison garnie du dernier ordre, mais dont la maîtresse était une fort honnête femme, la veuve d'un fermier général mort sur l'échafaud, et qui, complètement ruinée, commençait avec quelques louis le chanceux métier de locataire principal. Elle a eu depuis 7 maisons dans le quartier Saint-Roch et a fait fortune. « Le citoyen Mongenot n'y est pas, mais il y a du monde, » me dit cette dame. Le dernier mot excite ma curiosité. Je monte au 5e étage. Une charmante personne vient m'ouvrir la porte. Oh, mais une jeune personne de la plus grande beauté, qui, d'un air assez soupçonneux, resta sur le seuil de la porte entrebâillée. « Je suis Alain, l'ami de mon genou, » dis-je. Aussitôt la porte s'ouvre, et j'entre dans un affreux galetas, où cette jeune personne maintenait néanmoins une grande propreté. Elle m'avance une chaise devant une cheminée pleine de cendres, sans feu, et dans un coin de laquelle j'aperçois un vulgaire réchaud en terre. On gelait. « Je suis bien heureuse, monsieur, » me dit-elle en me prenant les mains et en me les serrant avec affection, « d'avoir pu vous témoigner ma reconnaissance, car vous êtes notre sauveur. Sans vous, peut-être n'aurais-je jamais revu mon genou. Il se serait, quoi, jeté à la rivière. Il était au désespoir quand il est parti pour vous aller voir. » En examinant cette jeune personne, je fus assez étonnée de lui voir sur la tête un foulard, et sous le foulard, derrière la tête et le long des tempes, une ombre noire. Mais, à force de regarder, je découvris qu'elle avait la tête rasée. « Êtes-vous malade ? » dis-je en regardant cette singularité. Elle jeta un coup d'œil dans la mauvaise glace d'un trumeau crasseux, se mit à rougir, puis des larmes lui vinrent aux yeux. « Oui, monsieur, » reprit-elle vivement. « J'avais d'horribles douleurs de tête. J'ai été forcée de faire raser mes beaux cheveux qui me tombaient au talon. »«
Est-ce à Madame Mongenot que j'ai l'honneur de parler ? » dis-je.
« Oui, monsieur, » me répondit-elle en me lançant un regard vraiment céleste. Je saluai cette pauvre petite femme. Je descendis dans l'intention de me faire causer l'hôtesse, mais elle était sortie. Il me semblait que cette jeune femme avait dû vendre ses cheveux pour avoir du pain. J'allai de ce pas chez un marchand de bois, et j'envoyai une demi-voix de bois en priant le charretier et les scieurs de donner à la petite femme une facture acquittée au nom du citoyen Mongenod. Là finit la période de ce que j'ai longtemps appelé « ma bêtise », fit le bonhomme Alain en joignant les mains et les levant un peu par un mouvement de repentance. Godefroy ne put s'empêcher de sourire, et il était, comme on va le voir, dans une grande erreur en souriant. « 2 jours après, reprit le bonhomme, je rencontrai l'une de ces personnes qui ne sont ni amies ni indifférentes et avec lesquelles nous avons des relations de loin en loin, ce qu'on nomme enfin une connaissance. Un monsieur Barillo, qui par hasard, à propos des Péruviens, se dit ami de l'auteur. « Tu connais le citoyen Mongenod ?» lui dis-je. Dans ce temps-là, nous étions encore obligés de nous tutoyer tous, dit-il à Godefroy en façon de parenthèse. « Ce citoyen me regarde, dit le bonhomme en reprenant son récit, et s'écria. « Je voudrais bien ne pas l'avoir connu, car il m'a plusieurs fois emprunté de l'argent et me témoigna assez d'amitié pour ne pas me le rendre. C'est un drôle de garçon. » Un bon enfant, mais des illusions, oh, une imagination de feu. Je lui rends justice, il ne veut pas tromper, mais comme il se trompe lui-même sur toute chose, il arrive à se conduire en homme de mauvaise foi. Mais que te doit-il? Ah, quelques 100 écus. C'est un panier percé, personne ne sait où passe son argent, car il ne le sait peut-être pas lui-même. A-t-il des ressources? « Eh oui, me dit Barillo en riant. Dans ce moment, il parle d'acheter des terres chez les sauvages aux États-Unis. » J'emportai cette goutte de vinaigre que la médisance m'avait jetée au cœur et qui fit aigrir toutes mes bonnes dispositions. J'allai voir mon ancien patron qui me servait de conseil. Dès que je lui eus confié le secret de mon prêt à Mongenod et la manière dont j'avais agi, « Comment ? » s'écria-t-il. C'est un de mes clercs qui se conduit ainsi. Mais il fallait remettre au lendemain et venir me voir. Vous auriez appris que j'ai consigné Mongenod à ma porte. Il m'a déjà, depuis 1 an, emprunté plus de 100 écus en argent, une somme énorme. Et 3 jours avant d'aller déjeuner avec vous, il m'a rencontré dans la rue et m'a dépeint sa misère avec des mots si navrants que je lui ai donné 2 louis. Si je suis la dupe d'un habile comédien, « C'est tant pis pour lui et non pour moi, » lui dis-je. « Mais que faire ? Au moins faut-il obtenir de lui quelques titres, car un débiteur, quelque mauvais qu'il soit, peut devenir bon, et alors on est payé. » Là-dessus, Bordin tira d'un carton de son secrétaire une chemise sur laquelle je vis écrit le nom de Mongenod. Il me montra 3 reconnaissances de 100 livres chacune. La première fois qu'il viendra, je lui ferai joindre les intérêts, les 2 louis que je lui ai donnés et ce qu'il me demandera. Puis du tout, il souscrira une acceptation en reconnaissant que les intérêts courent depuis le jour du prêt. Au moins serai-je en règle et aurai-je un moyen d'arriver au paiement. « Eh bien, dis-je à Bordin, pourriez-vous me mettre en règle comme vous le serez? Car vous êtes un honnête homme et ce que vous faites est bien. » « Je reste ainsi maître du terrain, » me répondit l'ex-procureur. « Quand on se comporte comme vous l'avez fait, on est à la merci d'un homme qui peut se moquer de vous. Moi, je ne veux pas qu'on se moque de moi. Se moquer d'un ancien procureur au Châtelet, tard. Tout homme à qui vous prêtez une somme, comme vous avez étourdiment prêté la vôtre à Mongenod, finit au bout d'un certain temps par la croire à soi. Ce n'est plus votre argent, mais son argent. » Et vous devenez son créancier, un homme incommode. Un débiteur cherche alors à se débarrasser de vous, en s'arrangeant avec sa conscience. Et sur 100 hommes, il y en a 75 qui tâchent de ne plus vous rencontrer durant le reste de leur jour. Vous ne reconnaissez donc que 25% d'honnêtes gens? Ai-je dit cela? Reprit-il en souriant avec malice. C'est beaucoup.
15 jours après, je reçus une lettre par laquelle Bordin me priait de passer chez lui pour retirer mon titre. J'y allais.
J'ai tâché de vous rattraper 50 louis, me dit-il.
Je lui avais confié ma conversation avec mon genou. Mais les oiseaux se sont envolés.
Dites adieu à vos jaunets. Vos serins de canaris ont regagné les climats chauds.
Nous avons affaire à un nègre fin.
Ne m'a-t-il pas soutenu que sa femme et son beau-père étaient partis aux États-Unis avec 60 de vos louis pour y acheter des terres, et qu'il comptait les y rejoindre,
soi-disant pour faire fortune, afin de revenir payer ses dettes,
dont l'État, parfaitement en règle, m'a été confié par lui, car il m'a prié de savoir ce que deviendraient ses créanciers.
Voici cet état circonstancié,
me dit Bordin en me montrant une chemise sur laquelle il lut le total.
17 000 francs en argent, dit-il, une somme avec laquelle on aurait une maison valant 2 000 écus de rente.
Et après avoir remis le dossier, il me rendit une lettre de change d'une somme équivalent à 100 louis en or, exprimée en assignat, avec une lettre par laquelle mon genou reconnaissait avoir reçu 100 louis en or et m'en devoir les intérêts.
« Me voilà donc en règle, » dis-je à Bordin.
« Il ne vous niera pas la dette, »
me répondit mon ancien patron. « Mais où il n'y a rien, le roi, c'est-à-dire le directoire, perd ses droits. »
Je sortis sur ces mots. Croyant avoir été volé par un moyen qui échappe à la loi, je retirai mon estime à mon genou, et je me résignai, très philosophiquement.
Si je m'appesantis sur ces détails si vulgaires et en apparence si légers, ce n'est pas sans raison,
dit le bonhomme en regardant Godefroy. Je cherche à vous expliquer comment je fus conduit à agir, comme agissent la plupart des hommes, au hasard et au mépris des règles que les sauvages observent dans les moindres choses. Bien des gens se justifieraient en s'appuyant sur un homme grave comme Bordin. Mais aujourd'hui je me trouve inexcusable. Dès qu'il s'agit de condamner un de nos semblables en lui refusant à jamais notre estime, on ne peut s'en rapporter qu'à soi-même. Et encore, devons-nous faire de notre cœur un tribunal où nous citions notre prochain? Où serait la loi? Quelle serait notre mesure d'appréciation? Ce qui chez nous est faiblesse, ne sera-t-il pas force chez le voisin? Autant d'êtres, autant de circonstances différentes pour chaque fait, car il n'est pas deux accidents semblables dans l'humanité. La société seule a sur ses membres le droit de répression, car celui de punition, je le lui conteste. Réprimer lui suffit, et comporte d'ailleurs assez de cruauté. En écoutant les propos en l'air d'un Parisien, et en admirant la sagesse de mon ancien patron, je condamnais donc mon genou. Reprit le bonhomme en continuant son histoire, après en avoir tiré ce sublime enseignement. On annonça les Péruviens. Je m'attendis à recevoir un billet de mon genou pour la première représentation. Je m'établissais une sorte de supériorité sur lui. Mon ami me semblait, à raison de son emprunt, une sorte de vassal qui me devait une foule de choses, outre les intérêts de mon argent.
Nous agissons tous ainsi.
Non seulement mon genou ne m'envoya point de billet, mais je le vis venir de loin dans le passage obscur pratiqué sous le théâtre Feydeau. Bien mis, élégant presque. Il feignit de ne pas m'avoir aperçu. Puis, quand il m'eut dépassé, lorsque je voulus courir à lui, mon débiteur s'était évadé par un passage transversal. Cette circonstance m'irrita vivement. Mon irritation, loin d'être passagère, s'accrut avec le temps. Voici comment. Quelques jours après cette rencontre, j'écrivis à mon genou à peu près en ces termes. Mon ami, vous ne devez pas me croire indifférent à tout ce qui peut vous arriver d'heureux ou de malheureux. Les Péruviens vous donnent-ils de la satisfaction? Vous m'avez oublié. C'était votre droit. Pour la première représentation où je vous aurais tant applaudi. Quoi qu'il en soit, je souhaite que vous y trouviez un Pérou, car j'ai trouvé l'emploi de mes fonds et compte sur vous à l'échéance. Votre ami, Alain. Après être resté 15 jours sans recevoir de réponse, je vais rue des Moineaux. L'hôtesse m'apprend que la petite femme est effectivement partie avec son père à l'époque où Mongenod avait annoncé ce départ à Bordin. Mongenod quittait son galetas de grand matin et n'y revenait que tard dans la nuit. 15 autres jours se passent. Nouvelle lettre ainsi conçue. « Mon cher Mongenod, je ne vous vois point. Vous ne répondez point à mes lettres. Je ne conçois rien à votre conduite. Et si je me comportais ainsi envers vous, que penseriez-vous de moi ?»« Je ne signe plus votre ami. Je mets 1000 amitiés. » Un mois se passe sans que j'aie aucune nouvelle de Mongenod. Les Péruviens n'avaient pas obtenu le grand succès sur lequel Mongenod comptait. J'y allais pour mon argent à la 20e représentation, et j'y vis peu de monde. Madame Sillot y était cependant fort belle. On me dit au foyer que la pièce aurait encore quelques représentations. Je vais 7 fois à différentes reprises chez Mongenod. Je ne le trouve point, et chaque fois je laisse mon nom à l'hôtesse. Je lui écris alors. « Monsieur, si vous ne voulez pas perdre mon estime après avoir perdu mon amitié, vous me traiterez maintenant comme un étranger, c'est-à-dire avec politesse, et vous me direz si vous serez en mesure à l'échéance de votre lettre de change. Je me conduirai d'après votre réponse. Votre serviteur, Alain. » Aucune réponse. Nous étions alors en 1799. À 2 mois près, 1 an s'était écoulé. À l'échéance, je vais trouver Bordin. Bordin prend le titre, fait protester et poursuivre. Les désastres éprouvés par les armées françaises avaient produit sur les fonds une dépréciation si forte qu'on pouvait acheter 5 francs de rente pour 7 francs. Ainsi, pour 100 louis en or, j'aurais eu près de 1500 francs de rente. Tous les matins, en prenant ma tasse de café, je disais à la lecture du journal « Maudit Mongenod, sans lui je me ferais 1000 écus de rente. » Mongenod était devenu ma bête noire. Je tonnais contre lui tout en me promenant dans les rues. « Bordin est là, me disais-je, il le pincera et ce sera bien fait. » Ma haine s'exhalait en imprécations. Je maudissais cet homme, je lui trouvais tous les vices. Ah, monsieur Barillot avait bien raison dans ce qu'il m'en disait. Enfin, un matin, je vois entrer mon débiteur, pas plus embarrassé que s'il ne me devait pas 1 centime. En l'apercevant, j'éprouvai toute la honte qu'il aurait dû ressentir. Je fus comme un criminel surpris en flagrant délit. J'étais mal à mon aise. Le 18 Brumaire avait eu lieu. Tout allait au mieux, les fonds montaient, et Bonaparte était parti pour aller livrer bataille de Marengo. « Il est malheureux, monsieur, dis-je en recevant Mongenod debout, que je ne doive votre visite qu'aux instances d'un huissier. » Mongenod prend une chaise et s'assied. « Je viens te dire, me répondit-il, que je suis hors d'état de te payer. Vous m'avez fait manquer le placement de mon argent avant l'arrivée du premier consul, moment où je me serais fait une petite fortune. « Je le sais, Alain, me dit-il, je le sais. Mais à quoi bon me poursuivre et m'endetter en m'accablant de frais? J'ai reçu des nouvelles de mon beau-père et de ma femme. Ils ont acheté des terres et m'ont envoyé la note des choses nécessaires à leur établissement. J'ai dû employer toutes mes ressources à ces acquisitions. Maintenant, sans que personne puisse m'en empêcher, je vais partir sur un vaisseau hollandais, à Flessing, où j'ai fait parvenir toutes mes petites affaires. Bonaparte a gagné la bataille de Marengo. La paix va se signer. Je puis sans crainte rejoindre ma famille, car ma chère petite femme est partie enceinte. Ainsi vous m'avez immolé à vos intérêts, lui dis-je. Oui, me répondit-il, j'ai cru que vous étiez mon ami. En ce moment, je me sentis inférieur à Mongenod, tant il me parut sublime en disant ce simple mot si grand. Ne vous l'ai-je pas dit ? Reprit-il. N'ai-je pas été de la dernière franchise avec vous, là, à cette même place? Je suis venu à vous, Alain, comme à la seule personne par laquelle je puisse être apprécié. 50 louis, vous ai-je dit, seraient perdus, mais 100, je vous les rendrai. Je n'ai point pris de terme, car puis-je savoir le jour où j'aurai fini ma longue lutte avec la misère? Vous étiez mon dernier ami. Tous mes amis, même notre vieux patron Bordin, me méprisaient par cela même que je leur empruntais de l'argent. Oh, vous ne savez pas, Alain, la cruelle sensation qui étreint le cœur d'un honnête homme aux prises avec le malheur quand il entre chez quelqu'un pour lui demander secours. Et tout ce qui s'ensuit, je souhaite que vous ne la connaissiez jamais. Elle est plus affreuse que l'angoisse de la mort. Vous m'avez écrit des lettres qui, de moi, dans la même situation, vous eussent semblé bien odieuses. Vous avez attendu de moi des choses qui n'étaient point en mon pouvoir. Vous êtes le seul auprès de qui je viens me justifier. Malgré vos rigueurs, et quoique d'amis vous vous soyez métamorphosé en créancier le jour où Bordin m'a demandé un titre pour vous, démentant ainsi le sublime contrat que nous avons fait là, en nous serrant la main et en échangeant nos larmes. Eh bien, je me suis souvenu... Eh bien, je ne me suis souvenu que de cette matinée. À cause de cette heure, je viens vous dire... Vous ne connaissez pas le malheur, ne l'accusez pas. Je n'ai eu ni une heure ni une seconde pour écrire et vous répondre. Peut-être auriez-vous désiré que je vinsse vous cajoler. Autant vaudrait demander à un lièvre fatigué par les chiens et les chasseurs de se reposer dans une clairière et d'y brouter l'herbe. Je n'ai pas eu de billets pour vous, non. Je n'en ai pas eu assez pour les exigences de ceux de qui mon sort dépendait. Novice au théâtre, j'ai été la proie des musiciens, des acteurs, des chanteurs, de l'orchestre. Pour pouvoir partir et acheter ce dont ma famille a besoin là-bas, j'ai vendu les Péruviens au directeur, avec 2 autres pièces que j'avais en portefeuille. Je pars pour la Hollande sans un sou. Je mangerai du pain sur la route, jusqu'à ce que j'aie atteint Flessingue. Mon voyage est payé, voilà tout. Sans la pitié de mon hôtesse, qui a confiance en moi, j'aurais été obligé de voyager à pied, le sac sur le dos. Donc, malgré vos doutes sur moi, comme sans vous je n'aurais pu envoyer mon beau-père et ma femme à New York, ma reconnaissance reste entière. Non, monsieur Alain, je n'oublierai pas que les 100 louis que vous m'avez prêtés vous donneraient aujourd'hui 1500 francs de rente. Je voudrais vous croire, mon genou, dis-je presque ébranlé par l'accent qu'il mit en prononçant cette explication. Ah, tu ne me dis plus monsieur, dit-il vivement en me regardant d'un air attendri. Mon Dieu, je quitterai la France avec moins de regrets si j'y laissais un homme aux yeux de qui je ne serais ni un demi-fripon, ni un dissipateur, ni un homme à illusion. J'ai aimé un ange au milieu de ma misère. Un homme qui aime bien, Alain, n'est jamais tout à fait méprisable. À ces mots, je lui tendis la main, il la prit, me la serra. « Que le ciel te protège, » lui dis-je. « Nous sommes toujours amis ? » demanda-t-il. « Oui, » repartis-je. « Il ne sera pas dit que mon camarade d'enfance et mon ami de jeunesse sera parti pour l'Amérique sous le poids de ma colère. » Mon genou m'embrassa les larmes aux yeux et se précipita vers la porte. Quand quelques jours après je rencontrai Bordin, je lui racontai ma dernière entrevue et il me dit en souriant « Je souhaite que ce ne soit pas une scène de comédie. Il ne vous a rien demandé ?»« Non, » répondis-je. « Il est venu de même chez moi. J'ai eu presque autant de faiblesses que vous, et il m'a demandé de quoi vivre en route. Enfin, qui vivra verra. » Cette observation de Bordin me fit craindre d'avoir cédé bêtement à un mouvement de sensibilité. « Mais lui aussi, le procureur, a fait comme moi, » me dis-je. « Je crois inutile de vous expliquer comment je perdis toute ma fortune, à l'exception de mes 100 louis que je plaçais sur le grand livre, quand les fonds furent à un taux si élevé que j'eus à peine 500 francs de rente pour vivre, à l'âge de 34 ans. » J'obtins, par le crédit de Bordin, un emploi de 800 francs d'appointement à la succursale du Mont-de-Piété, rue des Petits-Augustins. Je vécus alors bien modestement. Je me logeai rue des Marais, au 3e, dans un petit appartement composé de 2 pièces et d'un cabinet, pour 250 francs. J'allai dîner dans une pension bourgeoise, à 40 francs par mois. Je faisais le soir des écritures. Laid comme je suis et pauvre, je dus renoncer à me marier. » En entendant cet arrêt que le pauvre Alain portait sur lui-même avec une adorable résignation, Godefroy fit un mouvement qui prouva mieux qu'une confidence la parité de leur destinée. Et le bonhomme, en réponse à ce geste éloquent, eut l'air d'attendre un mot de son auditeur. « Vous n'avez jamais été aimé ?» demanda Godefroy. « Jamais, » reprit-il, « excepté par madame qui nous rend à tous l'amour que nous avons tous pour elle, un amour que je puis appeler divin. Vous avez pu vous en convaincre. Nous vivons de sa vie, comme elle vit de la nôtre. Nous n'avons qu'une âme à nous tous, et pour n'être pas physique, nos plaisirs n'en sont pas moins d'une grande vivacité, car nous n'existons que par le cœur. « Que voulez-vous, mon enfant ? » reprit-il. « Quand les femmes peuvent apprécier les qualités morales, elles en ont fini avec les dehors, et elles sont vieilles alors. J'ai beaucoup souffert, allez. Ah, « j'en suis là !» dit Godefroy. Sous l'Empire, reprit le bonhomme en baissant la tête, les rentes ne se payaient pas exactement. Il fallait prévoir les suspensions de paiement. De 1802 à 1814, il ne se passa point de semaine que je n'attribuasse mes chagrins à mon genou. « Sans mon genou, me disais-je, j'aurais pu me marier. Sans lui, je ne serais pas obligée de vivre de privation. Mais quelquefois aussi je me disais, « Peut-être le malheureux est-il poursuivi là-bas par un mauvais sort. » En 1806, par un jour où je trouvais ma vie bien lourde à porter, je lui écrivis une longue lettre que je lui fis passer par la Hollande. Je n'eus pas de réponse, et j'attendis pendant 3 ans, en fondant sur cette réponse des espérances toujours déçues. Enfin, je me résignai à ma vie, à mes 500 francs de rente, à mes 1200 francs au Mont-de-Piété, car je fus augmentée. Je joignis une tenue de livre que j'obtins chez M. Birotteau, parfumeur, et qui me valut 500 francs. Ainsi, non seulement je me tirais d'affaires, mais je mettais 800 francs de côté par an. Au commencement de 1814, je plaçais 9 000 francs d'économie à 40 francs sur le grand livre, et j'eus 1 600 francs de rente assurée pour mes vieux jours. J'avais ainsi 1 500 francs au Mont-de-Piété, 600 francs pour ma tenue de livre, 1 600 francs sur l'état. En tout, 3 700 francs. Je pris un appartement rue de Seine et je vécus alors un peu mieux. Ma place me mettait en relation avec bien des malheureux. Depuis 12 ans, je connaissais mieux que qui que ce soit la misère publique. Une ou deux fois, j'obligeais quelques pauvres gens. Je sentis un vif plaisir en trouvant sur 10 obligés un ou deux ménages qui se tiraient de peine. Il me vint dans l'esprit que la bienfaisance ne devait pas consister à jeter de l'argent à ceux qui souffraient. Faire la charité, selon l'expression vulgaire, me parut souvent être une espèce de prime donnée au crime. Je me mis à étudier cette question. J'avais alors 50 ans, et ma vie était à peu près finie. « À quoi suis-je bon ? » me demandai-je. « À qui laisserai-je ma fortune ? Quand j'aurai meublé richement mon appartement, quand j'aurai une bonne cuisinière, quand mon existence sera bien convenablement assurée, à quoi emploierai-je mon temps ?» Ainsi, 11 ans de révolution et 15 ans de misère avaient dévoré le temps le plus heureux de ma vie, l'avaient usé dans un travail stérile ou uniquement employé à la conservation de mon individu. Personne ne peut, à cet âge, s'élancer de cette destinée obscure et comprimée par le besoin vers une destinée éclatante. Mais on peut toujours se rendre utile. Je compris enfin qu'une surveillance prodigue en conseil décuplait la valeur de l'argent donné, car les malheureux ont surtout besoin de guides. En les faisant profiter du travail qu'ils font pour autrui, l'intelligence du spéculateur n'est pas ce qui leur manque. Quelques beaux résultats que j'obtins me rendirent très fière. j'aperçus à la fois et un but et une occupation, sans parler des jouissances exquises que donne le plaisir de jouer en petit le rôle de la Providence.
« Et vous le jouez aujourd'hui en grand ?» demanda vivement Godefroy.
« Oh, vous voulez tout savoir ?» dit le vieillard.
« Néni !»
« Le croiriez-vous ? » reprit-il après cette pause. « La faiblesse des moyens que ma petite fortune mettait à ma disposition me ramenait souvent à mon genou. « Sans mon genou, j'aurais pu faire bien davantage, disais-je. « Si un malhonnête homme ne m'avait pas enlevé 1500 francs de rente, ai-je souvent pensé, je sauverais cette famille. » Excusant alors mon impuissance par une accusation, ceux à qui je n'offrais que des paroles pour consolation maudissaient mon genou avec moi. Les malédictions me soulageaient le cœur. Un matin, en janvier 1816, ma gouvernante m'annonce « Qui ? Mon genou !»« Monsieur mon genou ! Et qui vois-je entrer ? La belle femme, alors âgée de 36 ans, et accompagnée de 3 enfants. Puis, mon genou, plus jeune que quand il était parti, car la richesse et le bonheur répandent une auréole autour de leur favori. Parti maigre, pâle, jaune, sec, il revenait gros, gras, fleuri comme un prébendier et bien vêtu. Il se jeta dans mes bras, et se trouvant reçu froidement, il me dit pour première parole « Ai-je pu venir plus tôt, mon ami ? Les mers ne sont libres que depuis 1815. Encore m'a-t-il fallu 18 mois pour réaliser ma fortune, clore mes comptes et me faire payer. J'ai réussi, mon ami. Quand j'ai reçu ta lettre en 1806, je suis parti sur un vaisseau hollandais pour t'apporter moi-même une petite fortune. Mais la réunion de la Hollande à l'Empire français m'a fait prendre par les Anglais qui m'ont conduit à la Jamaïque, d'où je me suis échappé par hasard. De retour à New York, je me suis trouvé victime de faillite, car en mon absence, la pauvre Charlotte n'avait pas su se défier des intrigants. J'ai donc été forcé de recommencer l'édifice de ma fortune. Enfin, nous voici de retour. À la manière dont te regardent mes enfants, tu dois bien deviner qu'on leur a souvent parlé du bienfaiteur de la famille.
« Oh oui, monsieur !» dit la belle Madame Mongenot. Nous n'avons pas passé un seul jour sans nous souvenir de vous.
Votre part a été faite dans toutes les affaires. Nous avons aspiré tous au bonheur que nous avons en ce moment de vous offrir votre fortune, sans croire que cette dîme du Seigneur puisse jamais acquitter la dette de la reconnaissance. » En achevant ces mots, Madame Mongenot me tendit cette magnifique cassette que vous voyez, dans laquelle se trouvait 150 billets de 1000 francs. Tu as bien souffert, mon pauvre Alain, je le sais, mais nous devinions tes souffrances, et nous nous sommes épuisés en combinaison pour te faire parvenir de l'argent sans y avoir pu réussir, reprit mon genou. Tu n'as pas pu te marier, tu me l'as dit, mais voici notre fille aînée. Elle a été élevée dans l'idée de devenir ta femme, et a 150 000 francs de dot.
« Dieu me garde de faire son malheur » m'écriai-je vivement en contemplant une fille aussi belle que l'était sa mère à cet âge, et je l'attirai sur moi pour l'embrasser au front.
« N'ayez pas peur, ma belle enfant, lui dis-je. Un homme de 50 ans a une fille de 17 ans, et un homme aussi laid que je le suis, m'écriai-je. Jamais !»«
Monsieur, me dit-elle, le bienfaiteur de mon père ne sera jamais laid pour moi. »
Cette parole, dite spontanément et avec candeur, me fit comprendre que tout était vrai dans le récit de mon genou. Je lui tendis alors la main, et nous nous embrassâmes de nouveau. « Mon ami, lui dis-je, j'ai des torts envers toi, car je t'ai souvent accusé, maudit. « Tu le devais, Alain, me répondit-il en rougissant. Tu souffrais, et par moi. » Je tirai d'un carton le dossier Mongenot et je lui rendis les pièces en acquittant sa lettre de change. « Vous allez déjeuner tous avec moi, » dis-je à la famille, « à la condition de venir dîner chez madame, une fois qu'elle sera installée, me dit mon genou, car nous sommes arrivés qu'hier. Nous allons acheter un hôtel, et je vais ouvrir une maison de banque à Paris pour l'Amérique du Nord, afin de la laisser à ce gaillard-là, dit-il en me montrant son fils aîné qui avait 15 ans. Nous passâmes ensemble le reste de la journée et nous allâmes le soir à la comédie, car Mongenod et sa famille étaient affamés de spectacle. Le lendemain, je plaçai la somme sur le grand livre et j'eus environ 15 000 francs de rente en tout. Cette fortune me permit de ne plus tenir de livre le soir et de donner la démission de ma place, au grand contentement des surnuméraires. Après avoir fondé la maison de banque Mongenod et compagnie, qui a fait d'énormes bénéfices dans les premiers emprunts de la Restauration, mon ami est mort en 1827, à 63 ans. Sa fille, à laquelle il a donné plus tard 1 million de dot, a épousé le vicomte de Fontaine. Le fils, que vous connaissez, n'est pas encore marié. Il vit avec sa mère et son jeune frère. Nous trouvons chez eux toutes les sommes dont nous pouvons avoir besoin. Frédéric, car le père lui avait donné mon nom en Amérique. Frédéric Mongenod est, à 37 ans, un des plus habiles et des plus probes banquiers de Paris. Il n'y a pas longtemps que Madame Mongenod a fini par m'avouer qu'elle avait vendu ses cheveux pour 2 écus de 6 livres, afin d'avoir du pain. Elle donne tous les ans 24 voix de bois que je distribue aux malheureux pour la demi-voix que je lui ai jadis envoyée. Ceci m'explique alors vos relations avec la maison Mongenod, dit Godefroy, et votre fortune. Le bonhomme regarda Godefroy en souriant toujours avec la même expression de douce malice. Continuez, reprit Godefroy, en voyant à l'air de M. Alain que le bonhomme n'avait pas tout dit. Ce dénouement, mon cher Godefroy, fit sur moi la plus profonde impression. Si l'homme qui avait tant souffert, si mon ami me pardonna mon injustice, moi, je ne me la pardonnais point. « Oh ! » fit Godefroy. Je résolus de consacrer tout mon superflu, environ 10 000 francs par an, à des actes de bienfaisance raisonnés, reprit tranquillement M. Alain. Je rencontrai, vers ce temps, un juge du tribunal de première instance, de la Seine, nommé Popineau, que nous avons eu le chagrin de perdre il y a 3 ans, et qui, pendant 15 années, exerça la charité la plus active dans le quartier Saint-Marcel. Il eut, avec notre vénérable vicaire de Notre-Dame et Madame, la pensée de fonder l'œuvre à laquelle nous coopérons, et qui, depuis 1825, a secrètement produit quelques biens. Cette œuvre a eu, dans Madame de la Chanterie, une âme, car elle est véritablement l'âme de cette entreprise. Le vicaire a su nous rendre plus religieux que nous ne l'étions d'abord, en nous démontrant la nécessité d'être vertueux nous-mêmes pour pouvoir inspirer la vertu, pour enfin prêcher l'exemple. Plus nous avons cheminé dans cette voie, plus nous nous sommes réciproquement trouvés heureux. Ce fut donc le repentir que j'eus d'avoir méconnu le cœur de mon ami d'enfance, qui me donna l'idée de consacrer aux pauvres, par moi-même, la fortune qu'il me rapportait et que j'acceptais sans me révolter contre l'énormité de la somme rendue à la place de celle que j'avais prêtée. La destination conciliait tout. Ce récit, fait sans aucune emphase et avec une touchante bonhomie dans l'accent, dans le geste, dans le regard, aurait inspiré à Godefroy le désir d'entrer dans cette sainte et noble association, si déjà sa résolution n'eût été prise. Vous connaissez peu le monde, dit Godefroy, puisque vous avez eu de tels scrupules pour ce qui ne pèserait sur aucune conscience. Je ne connais que les malheureux, répondit le bonhomme. Je désire peu connaître un monde où l'on craint si peu de se mal juger les uns les autres. Voici bientôt minuit, et j'ai mon chapitre de l'imitation de Jésus-Christ à méditer. Bonne nuit. Godefroy prit la main du bonhomme et la lui serra par un mouvement plein d'admiration. Pouvez-vous me dire l'histoire de Madame de la Chanterie ? Demanda Godefroy.
C'est impossible sans son consentement, répondit le bonhomme,
car elle touche à l'un des événements les plus terribles de la politique impériale. Ce fut par mon ami Bordin que j'ai connu Madame. Il en a eu tous les secrets. C'est lui qui m'a, pour ainsi dire, amenée dans cette maison.
Quoi qu'il en soit, répondit Godefroy, je vous remercie de m'avoir raconté votre vie. Il s'y trouve des leçons pour moi.
Savez-vous quelle en est la morale ?
Mais dites, répliqua Godefroy, car je pourrais y voir autre chose que ce que vous y voyez.
Eh bien, le plaisir, dit le bonhomme, est un accident dans la vie du chrétien. Il n'en est pas le but, et nous comprenons cela trop tard.
Et qu'arrive-t-il quand on se christianise ?
Demanda Godefroy.
Tenez, fit le bonhomme.
Il indiqua du doigt à Godefroy une inscription en lettres d'or sur un fond noir que le nouveau pensionnaire n'avait pu voir, puisqu'il entrait pour la première fois dans la chambre du bonhomme. Godefroy, qui se retourna, lut « Transire benefaciendo ».
Voilà, mon enfant, le sens qu'on donne alors à la vie. C'est notre devise. Si vous devenez un des nôtres, ce sera là tout votre brevet. Nous lisons cet avis que nous nous donnons à nous-mêmes à toute heure, en nous levant, en nous couchant, en nous habillant. Ah, si vous saviez quels immenses plaisirs comporte l'accomplissement de cette devise !»
Comme quoi ? Dit Godefroy, espérant des révélations. D'abord, nous sommes aussi riches que le baron de Nucingen. Mais l'imitation de Jésus-Christ nous défend d'avoir rien à nous. Nous ne sommes que dispensateurs, et si nous avions un seul mouvement d'orgueil, nous ne serions pas dignes d'être dispensateurs. Ce ne serait pas « transire benefaciendo », ce serait jouir par la pensée. Que vous vous disiez avec un certain gonflement de narines « je joue le rôle de la Providence », comme vous auriez pu le penser si vous eussiez été ce matin à ma place en rendant la vie à une famille. Vous devenez un sardanapal, un mauvais. Aucun de ces messieurs ne pense plus à lui-même en faisant le bien. Il faut dépouiller toute vanité, tout orgueil, tout amour-propre. Et c'est difficile, allez. Godefroy souhaita le bonsoir à Monsieur Alain et revint chez lui vivement touché de ce récit. Mais sa curiosité fut plus irritée que satisfaite, car la grande figure du tableau que présentait cet intérieur était Madame de la Chanterie. La vie de cette femme avait pour lui tant de prix qu'il faisait de cette information le but de son séjour à l'hôtel de la Chanterie. Il entrevoyait bien déjà dans l'association de ces cinq personnes une vaste entreprise de charité, mais il y pensait beaucoup moins qu'à son héroïne. Le néophyte passa quelques jours à observer mieux qu'il ne l'avait fait jusqu'alors les gens d'élite au milieu desquels il se trouvait, et il devint l'objet d'un phénomène moral que les philanthropes modernes ont dédaigné, par ignorance peut-être. La sphère où il vivait eut une action positive sur Godefroy. La loi qui régit la nature physique relativement à l'influence des milieux atmosphériques pour les conditions d'existence des êtres qui s'y développent régit également la nature morale. D'où il suit que la réunion des condamnés est un des plus grands crimes sociaux, et que leur isolement est une expérience d'un succès douteux. Les condamnés devraient être livrés à des institutions religieuses et environnés des prodiges du bien, au lieu de rester au milieu des miracles du mal. On peut attendre en ce genre un dévouement entier de la part de l'Église. Si elle envoie des missionnaires au milieu des nations sauvages ou barbares, avec quelle joie ne donnerait-elle pas à des ordres religieux la mission de recevoir les sauvages de la civilisation pour les catéchiser ? Car tout criminel est athée, et souvent sans le savoir. Godefroy trouva ces cinq personnes douées des qualités qu'elles exigeaient de lui. Toutes étaient sans orgueil, sans vanité, vraiment humbles et pieuses, sans aucune de ces prétentions qui constituent la dévotion, en prenant ce mot dans son acception mauvaise. ses vertus étaient contagieuses. Il fut pris du désir d'imiter ses héros inconnus, et il finit par étudier passionnément le livre qu'il avait commencé par dédaigner. En 15 jours, il réduisit la vie au simple, à ce qu'elle est réellement quand on la considère au point de vue élevé où vous mène l'esprit religieux. Enfin, sa curiosité, si mondaine d'abord, excitée par tant de motifs vulgaires, se purifia. S'il n'y renonça point, c'est qu'il était difficile de se désintéresser à l'endroit de Madame de la Chanterie, mais il montra, sans le vouloir, une discrétion qui fut appréciée par ses hommes, en qui l'esprit divin développait une profondeur inouïe dans les facultés, comme chez tous les religieux, d'ailleurs. La concentration des forces morales, par quelque système que ce soit, en décuple la portée. « Notre ami n'est pas encore converti, » disait le bon ami de Vèze, « mais il demande à l'être. » Une circonstance imprévue hâta la révélation de l'histoire de Madame de la Chanterie à Godefroy, en sorte que l'intérêt capital qu'elle présenta fut satisfait promptement. Paris s'occupait alors du dénouement à la barrière Saint-Jacques d'un de ces horribles procès criminels qui marquent dans les annales de nos cours d'assises. Ce procès avait tiré son prodigieux intérêt des criminels eux-mêmes, dont l'audace, dont l'esprit supérieur à ceux des accusés ordinaires, dont les cyniques réponses épouvantèrent la société. Chose digne de remarque, aucun journal n'entrait à l'hôtel de la Chanterie, et Godefroy n'entendit parler du rejet du pourvoi en cassation formé par les condamnés que par son maître en tenue de livre, car le procès avait eu lieu bien avant son entrée chez Madame de la Chanterie. « Rencontrez-vous, dit-il à ses futurs amis, des gens comme ces atroces coquins, et quand vous les rencontrez, comment vous y prenez-vous avec eux ?»« D'abord, dit Monsieur Nicolas, il n'y a pas d'atroces coquins. Il y a des natures malades à mettre à Charenton, mais, en dehors de ces rares exceptions médicales, nous ne voyons que des gens sans religion, ou des gens qui raisonnent mal, et la mission de l'homme charitable est de redresser les âmes, de remettre dans le bon chemin les égarés. Eh, dit l'abbé de Vèze, tout est possible à l'apôtre. Il a Dieu pour lui. Si l'on vous envoyait à ces deux condamnés, demanda Godefroy, vous n'en obtiendriez rien. Le temps manquerait, fit observer le bonhomme Alain. En général, dit monsieur Nicolas, on livre à la religion des âmes qui sont dans l'impénitence finale, et pour un temps insuffisant à faire des prodiges. Les gens de qui vous parlez, entre nos mains, seraient devenus des hommes très distingués. Ils sont d'une immense énergie. Mais dès qu'ils ont commis un assassinat, il n'est plus possible de s'en occuper. La justice humaine se les approprie. « Ainsi, dit Godefroy, vous êtes contre la peine de mort. » Monsieur Nicolas se leva vivement et sortit. Ne parlez jamais de la peine de mort devant monsieur Nicolas. Il a reconnu, dans un criminel à l'exécution duquel il avait été chargé de veiller, son enfant naturel. Et il était innocent, reprit monsieur Joseph. En ce moment, madame de la Chanterie, qui s'était absentée pour quelques instants, revint au salon. Enfin, avouez, dit Godefroy en s'adressant à M. Joseph, que la société ne peut pas subsister sans la peine de mort, et que ceux à qui, demain matin, l'on coupera... Godefroy se sentit fermer la bouche avec force par une main vigoureuse, et l'abbé de Vèze emmena Madame de la Chanterie, pâle et quasi mourante. « Qu'avez-vous fait ? » dit à Godefroy M. Joseph. « Emmenez-le, Alain, » dit-il en retirant la main avec laquelle il avait bâillonné Godefroy, et il suivit l'abbé de Vèze chez madame. « Venez, dit monsieur Alain à Godefroy, vous nous avez obligés à vous confier les secrets de la vie de madame. » Les deux amis se trouvèrent alors, au bout de quelques instants, dans la chambre du bonhomme Alain, comme ils y étaient lorsque le vieillard avait dit son histoire au jeune homme.